France Inter, franceinter.com.
Est-ce que tu as des questions, Inès?
Non, tu vas voir un petit peu comment ça se passe.
Mais est-ce que tu sais au moins ce qu'on va faire? Tu vas rentrer dans l'IRM. Tu sais, c'est une machine qui nous permet de voir ton cerveau. On va voir un petit peu quelles sont les régions qui s'activent, qui marche quand tu es en train de lire, quand tu es en train d'écouter de la parole. Parce que pourquoi on fait ça? Parce qu'on essaye de comprendre comment les enfants apprennent à lire.
Les savants.
Les aventuriers.
Les savants.
Turiers.
Les aventuriers. Fabienne Chauvière.
Comment naît le langage dans la tête des bébés et comment se développe le cerveau du petit de l'homme lorsqu'il apprend à lire? Ghislaine Dehaene, que vous allez découvrir dans cette émission, s'intéresse au développement neurologique des enfants. Pourquoi, par exemple, certains d'entre eux n'arrivent-ils pas à apprendre à lire alors qu'ils semblent tout à fait intelligents? Ghislaine Dehaene est médecin pédiatre, chercheur dans une unité INSERM installée dans un bâtiment tout neuf construit par le CEA à Saclay. Nous sommes à Neurospin, un centre d'imagerie cérébrale dont le but est d'étudier le cerveau. Cette plateforme ouverte à la communauté scientifique internationale sera, lorsque tous les instruments seront installés, unique en Europe. On commence à y recevoir des volontaires, parmi eux, des enfants.
Les aventuriers, Fabienne Chauvière.
T'es en quelle classe, Inès?
CP.
En CP. Tu commences à apprendre à lire, alors?
Oui.
Oui. Quelles sont les lettres que tu connais déjà?
I-N-E-S-A-B-C-I.
Tu sais déjà toutes les lettres de l'alphabet. Bon, bon, bon.
Et tu viens t'asseoir ici. On va te faire lire des ensembles de lettres, d'accord?
Ghislaine Dehaene, est-ce que vous pouvez nous résumer quelle est la question qui vous intéresse?
C'est de comprendre comment le cerveau humain est arrivé à faire des choses aussi compliquées que le langage, les mathématiques, les arts, ce que n'ont fait aucune autre espèce jusqu'ici. Et surtout chez le bébé, parce que le bébé, évidemment, ou le jeune enfant, d'où il part? Bon, à part dormir et manger, sourire quand même à ses parents, on n'a pas l'impression qu'il fasse grand-chose, mais déjà, il y a une activité très intense d'exploration du monde, et c'est ça qu'on peut voir avec notre imagerie.
Plus précisément, avec ces bébés, c'est donc le langage qui vous intéresse?
Oui, mais oui, c'est le langage. On a fait donc des études pour essayer de comprendre si la spécialisation gauche qu'on trouve chez quasiment tous les adultes était présente dès le départ ou si elle était une conséquence de notre apprentissage du langage.
Et c'est comprendre pour aider, prévenir, guérir?
Alors évidemment, en tant que pédiatre, j'aurais envie que ça serve pour aider, prévenir, guérir, comme vous dites, mais on en est encore bien loin, parce que, vous voyez, quand on fait une étude sur la lecture, on voit bien qu'il faut un groupe à 7 ans, qu'on démarre la lecture, un groupe à 10 ans, où on est déjà beaucoup plus habile et on a automatisé beaucoup de principes, et puis un groupe à 15 ans. Donc imaginez maintenant que vous vouliez regarder un enfant qui a une lésion cérébrale, bah, s'il a 10 ans, il faut que vous ayez un groupe contrôle de cet âge-là. Un adulte qui a un problème, bon, bah, disons qu'en gros, pendant 40 ans, on peut avoir un groupe contrôle pour quel que soit l'âge. Chez les enfants, il nous faut quasiment chaque année une connaissance de qu'est-ce que c'est la normalité à cet âge-là.
Donc ce sont les prémices, ce sont les débuts de la découverte de ce territoire tellement mal connu.
Je pense, oui. Et je pense en plus qu'on va pouvoir apporter donc des solutions pour évidemment les enfants qui ont des problèmes, et même pour des enfants qui apprennent normalement en classe, par exemple. Est-ce qu'il y a des meilleurs moyens d'enseigner qui répondent mieux aux contraintes de notre cerveau? Si on les comprend mieux, on pourra sans doute adapter aussi notre pédagogie à ce qu'est capable de faire le cerveau à tel ou tel âge. Bonjour Claude. Alors, c'est notre nouvelle machine qui vient d'arriver. C'est une magnétoencéphalographie. Claude est en train de développer des nouveaux capteurs qui seront absolument géniaux parce qu'on pourra faire IRM et magnétoencéphalographie
en même
dans la même machine.
Ah oui.
Peut-être Claude peut expliquer mieux que moi. Parce que...
Ça, c'est une chambre blindée. Oui. Ce qu'on essaye de mesurer, c'est le signal qui est émis par le cerveau de façon naturelle. C'est-à-dire lorsque vous pensez, il y a des courants qui circulent dans le cerveau. Ces courants créent un champ magnétique. On mesure le champ magnétique et avec ça, on reconstruit l'endroit où le courant a été créé. Et comme ça, on fait une imagerie fonctionnelle.
Et on voit plus qu'avec l'IRM ou on voit autre chose ?
On voit autre chose.
C'est-à-dire, avec l'IRM, on a une exactitude spatiale. C'est-à-dire, on sait parfaitement cette région, voilà, où ça se passe. Par contre, avec la magnétoencéphalographie et l'électroencéphalographie qu'on verra tout à l'heure, on a plus une résolution temporelle. On sait à quel moment. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, les magnétoencéphalographies.
Non, il y en a à peu près il y a environ une centaine dans le monde qui sont installées.
De nouvelles technologies, dont l'IRM, donc, sont à la disposition des chercheurs comme Ghislaine Dehaene. L'IRM, c'est un énorme aimant capable, grâce aux propriétés magnétiques des tissus, de déterminer quelles sont les zones du cerveau qui s'activent avec une très grande précision. Les volontaires, ici les enfants, sont allongés dans une sorte de tunnel assez bruyant, avec un casque sur la tête. La méthode est sans danger, mais elle comporte des contraintes. Il ne faut pas bouger.
Alors je vais vous montrer la chose dont je suis très fière, c'est mon zéro Tesla. Parce qu'ici on a des machines extraordinaires avec des hauts champs magnétiques, bon qui ne sont pas pour les enfants, hein, on reste dans des champs plus restreints pour les enfants. Et donc moi j'ai fait une machine zéro Tesla, c'est-à-dire en fait une maquette. Ça nous sert beaucoup pour les enfants, pour les habituer à l'IRM.
Donc c'est
une maquette. Parce que les enfants pensent que du moment qu'ils écoutent et qu'ils sont attentifs, ils sont tranquilles. Alors nous, on ne veut absolument pas qu'ils bougent. Et faire comprendre à un enfant qu'il ne faut pas bouger est parfois difficile. Donc on les met comme ils vont être dans l'IRM. On leur explique les tâches qu'ils vont faire. Mmh. Et en plus, on a un bruit de machine, un faux bruit de machine pour les habituer aussi au bruit que ça représente.
Donc c'est une IRM en carton ?
En bois !
Pardon. Et les petites peintures dessus sont très sympathiques,
oui,
des étoiles.
Voilà.
Et après, vous les mettez dans des IRM à combien de Tesla ?
C'est 3 Tesla.
Ouais.
3 Tesla, c'est maintenant la norme en clinique.
Ouais.
C'est les nouvelles machines. Et bon, c'est tout à fait. Enfin, il n'y a pas de danger à rentrer dans une IRM, sauf si on a du métal sur soi. Parce que le problème, comme c'est, on utilise un immense aimant,
ouais, c'est ça.
C'est de déplacer quelque chose de métallique dans le corps humain. Est-ce que tu as envie de faire pipi avant ? Salut Catel, voilà. Tu vois Catel, c'est elle qui s'occupe de régler la machine, c'est elle la pilote, si tu veux. Alors tu sais ce qu'on va faire ? On va enlever tes barrettes. Parce qu'il y a du fer dans tes barrettes et il faut absolument qu'il n'y ait pas du tout de fer qui rentre de l'autre côté. Alors moi j'enlève ma montre, toi tu enlèves tes barrettes. Est-ce que tu as des choses dans les poches ? Non ?
T'as pas de coupe d'oreille ? Est-ce que t'es passée aux toilettes ?
Elle a pas envie.
Tu vas. On a pour une heure. Tu veux ou tu veux pas ?
T'as dit ? Ouais, t'as raison. Ouais. C'est mieux. Bon, on ressort.
C'est
plus
tard.
Le but de l'exercice qui va suivre est de comprendre ce qui se passe en phase de lecture. Inès, qui est venue avec sa maman, est une petite fille très sage. De l'autre côté de la vitre, l'équipe de Ghislaine Dehaene, très rassurante, capture sur écran les images du cerveau en action.
Tu vas t'allonger là-bas.
Ghislaine, tu peux lui mettre la maison à l'écran, s'il te plaît, pour voir si on est au milieu ou pas ?
Oui.
Merci. Donc là, on va te mettre à l'écran de maison. D'accord, tu vas nous dire si tu la vois au milieu de l'écran ou pas. Ouais. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te la rentrer tout doucement. Ta tête va être au milieu de la machine. D'accord ? Ça va ? Bon, là, tu es en place, d'accord ? Donc la table, elle ne bougera plus.
Il y a une séquence qui va démarrer là pour voir comment est faite ta tête, d'accord ? Ça dure 3-4 minutes. Je vais te passer un petit dessin animé, tu n'as rien à faire, tu es une vraie statue, c'est tout. T'es prête ?
Oui.
Alors c'est parti.
Qu'est-ce qui se passe là ?
On a fait une étude l'année dernière sur des enfants de 9 ans, donc on avait des enfants normolecteurs et des enfants dyslexiques. Et donc on voit que dans la région occipitale, eh bien, y a une région qui va se spécialiser au moment où on acquiert la lecture pour les mots, et on ne voit pas d'activité de cette région-là chez les enfants dyslexiques. Est-ce que c'est la conséquence du fait qu'ils ont du mal à lire, donc ils n'arrivent pas à spécialiser cette région? Et tout ce qu'on voit, c'est simplement le fait que comme ils ne sont pas exercés à lire, cette région ne s'active pas. Ou est-ce qu'en fait, cette région ne peut pas s'activer parce qu'elle est mal organisée au départ? Donc là, on remonte un petit peu dans le temps et on veut tester des enfants au tout départ de la lecture. Comme les enfants dyslexiques lisent à peu près, donc deux ans plus vieux lisent à peu près comme Inès aujourd'hui. Donc on va pouvoir voir à un niveau de lecture égal, à performance de lecture égale, comment ils activent cette région-là.
Et combien vous faut-il d'enfants pour avoir des résultats scientifiques ?
Sur, à la limite, en IRM, on voit des activations significatives chez une personne. Ouais. Mais évidemment, quand on veut dire que c'est quelque chose de général, on a des groupes de 12 enfants, généralement. Tu me dis, hein, dès qu'on arrête.
C'est 20 secondes.
D'accord. Alors, je lance le programme et puis je te reparle avant que ça démarre. Tu nous dis dès que tu es prête. Ok, c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde exactement? On sait que l'homme ne s'est pas développé pour apprendre à lire. Enfin, ça n'a pas évolué pour apprendre à lire. La lecture et l'écriture sont des acquisitions récentes dans nos civilisations. Oui. Malgré que ça soit une activité culturelle, quand on regarde les activations chez l'adulte pour les mots, on tombe toujours sur la même région, qui est une région dans la partie occipitale gauche. Quels que soient les gens, même à travers des écritures différentes, comme par exemple le japonais, qui pourtant n'est pas fondé sur une écriture phonétique. Donc c'est assez marrant de comprendre quelles sont les contraintes d'organisation du cerveau qui font que ça arrive là. Évidemment, qu'est-ce que font ces régions avant? Je veux dire, avant l'existence de l'écriture. Donc on ne sait pas très bien. Donc on essaye un petit peu de cartographier, si vous voulez, quelque part, les régions visuelles.
Vous avez déjà des éléments de...
Non, là, on voit juste qu'elle n'a pas bougé, ce qu'on...
Tu pourras revenir la semaine prochaine. Ferme tes yeux, Inès. Tu les gardes bien fermés, hein.
Fabienne Chauvière, sur France Inter.
Ça va, Inès?
L'objectif que poursuit Ghislaine Dehaene depuis longtemps est d'expliquer le développement du cerveau de l'enfant alors qu'il devient progressivement capable d'assumer des fonctions complexes. Dans cet établissement flambant neuf dirigé par un jeune professeur du Collège de France, Stanislas Dehaene, notre saventurière jubile.
Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Quel a été votre chemin ?
Je suis pédiatre au départ. Oui. Donc en fait, j'ai travaillé beaucoup en néonatologie. Donc mon intérêt pour le jeune bébé, parce que maintenant, en réanimation néonatale, on peut réanimer des enfants vraiment très jeunes, très immatures. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'après, on leur apporte le meilleur suivi possible quand il y a des difficultés ? Parce que c'est quand même naître à 28 ou 29 semaines, c'est quand même pas la même chose que de naître à terme. Donc comment on peut améliorer leur prise en charge ? Comment on peut les suivre ? Après, j'ai fait de la neuropédiatrie, donc là encore aussi sur le développement neurologique des enfants. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une lésion cérébrale précoce ou quand il y a des troubles de l'apprentissage? Pourquoi un enfant n'arrive pas à apprendre à lire? Pourquoi un enfant a des difficultés en calcul alors qu'il est d'intelligence normale? Et donc c'est un petit peu ça qui m'a poussée vers la recherche et je ne fais plus de clinique actuellement. Je m'intéresse uniquement maintenant à comprendre ces mécanismes.
Est-ce que c'est facile de travailler avec son mari?
Effectivement, c'est le directeur du laboratoire, donc oui, non, mais c'est, non, il n'y a pas de problème.
Vous en parlez le soir à la maison?
Oui, on parle peut-être que de ça. Je me souviens que le premier dessin qu'avait fait notre enfant en maternelle, vous savez, ils reviennent avec des gribouillis, puis la maîtresse a écrit à côté ce que c'est, sinon on n'arrive pas à deviner, mais il y avait écrit un cerveau. on devait trop en parler à la maison, ça devait être ça. Ah oui, c'est tout neuf. Et puis on est tellement contents, je veux dire, on a tellement travaillé dans des caves. À terme, nous aurons trois machines ici dans cette salle. Donc d'abord le 3 Tesla, donc une machine commerciale.
Qu'on connaît à l'hôpital.
Le 7 Tesla, donc est plus une machine de recherche dans laquelle pour le moment, il n'y a que des adultes qui vont. Et après, nous avons la super machine du CEA avec un aimant à 12 Tesla. À peu près 12 Tesla, donc qui est pour le moment encore dans les cartons, parce que le but est de faire, on a déjà des machines avec un champ magnétique aussi élevé, mais pour des rongeurs, c'est-à-dire sur un volume petit, tandis que là le but est de mettre des humains, donc évidemment on est beaucoup plus gros que des rongeurs, donc ça demande un tunnel beaucoup plus grand.
Et le 12, ce sera un des plus gros d'Europe, non?
Du monde.
Du monde.
Pour l'humain. Donc en fait, on a les mêmes physiciens qui travaillent sur les gros aimants du CERN, qui travaillent aussi sur la conception de ce... Notre café par là. Ça, c'est important pour discuter entre, entre chercheurs.
Manque un peu tes cheveux et ça, c'est le casque, tu vois, qui était sur tes oreilles.
Que fait le cerveau lorsqu'il entend des mots? Que fait le cerveau lorsqu'il comprend les mots? Grâce à une série d'exercices, Ghislaine Dehaene commence à dresser des cartes de notre organe le plus précieux et le plus mal connu.
On peut augmenter ou diminuer le son, tu nous dis. C'était comment?
Là, ça va.
Tu vas écouter les phrases, il y en a en français et en japonais, tu te souviens? Et tu dois appuyer le plus vite possible à la fin de la phrase. D'accord, mais pas avant la fin de la phrase, d'accord?
Il était une fois trois grammes de petits cochons.
Donc ce qu'on essaye d'isoler, c'est les régions linguistiques. Donc pour ça, on a besoin donc, de la langue maternelle, mais aussi de quelque chose qui soit très proche de la parole, donc une langue étrangère est le plus proche, mais qui ne soit pas compris par l'enfant. Donc les deux langues vont évidemment activer les régions auditives, mais seul le français va activer les régions linguistiques, quelque part.
Finalement, dans cet exercice, ce qui vous intéresse, c'est les mots ou c'est les visages aussi?
C'est tout, c'est l'ensemble, c'est comment le fait d'apprendre des mots va... parce qu'avant d'apprendre les mots, on traite déjà les visages, on traite déjà les maisons, on traite déjà les choses qui bougent. Donc en fait, ces régions sont déjà très organisées, parce qu'il n'y a pas une région du cerveau qui reste sans rien faire. Je veux dire, la nature ayant horreur du vide, on ne va pas laisser des neurones sans rien faire. Donc au moment d'apprendre à lire, il va falloir que cette région se réorganise totalement pour maintenant spécialiser des neurones pour ce stimulus très particulier que sont les lettres et les mots. Et qui vont en plus non seulement être une forme visuelle très particulière, mais il faut associer ça à des sons. Donc il faut aller communiquer avec les régions auditives et les régions qui ont stocké les mots du langage oral, puisque jusqu'à la lecture, tout ce qui est mots vient du langage oral. Donc il faut aller connecter ces régions visuelles avec les régions qui ont déjà travaillé avec le langage oral.
Quand vous allez étudier vos données, qu'est-ce que vous allez voir sur les données? Quelles sont les choses qui vont vous donner des éléments de réponse?
En fait, on voit des résultats statistiques. On sait qu'on a présenté les visages ou les mots ou les maisons à un moment précis. On sait que normalement, après cette présentation, on va avoir une montée du signal dans la région qui traite, par exemple, les visages, qui va, au bout de 6 secondes, elle va atteindre son maximum, tenir et redescendre. Donc on va regarder dans l'ensemble du cerveau, quelles sont les régions qui ont eu ce décours temporel à chaque fois que j'ai présenté des visages. Puis on va regarder quelles sont les régions qui ont eu le même décours, mais quand je présente des mots, etc. Donc on va avoir des régions qui sont statistiquement corrélées avec la présentation des visages, des mots, etc. Donc ça va me donner comme ça la localisation de ces régions-là. Et on va voir comment elles sont proches ou pas.
Énergique, volubile, généreuse, bourrée d'humour, très sollicitée par la communauté scientifique, Ghislaine Dehaene est une chercheuse heureuse et comme beaucoup débordée, que ses collègues n'hésitent pas à railler au détour d'un couloir.
Alors là, c'est l'étage de l'unité du CERN. Andreas me rappelle que je dois faire une review. Vous savez, quand on a des travaux qu'on juge dignes d'être publiés, on envoie ça à un journal et le journal l'envoie à des experts.
Oui, oui.
Et donc, je dois faire l'expertise d'un papier et je suis un peu en retard.
Et c'est un papier qui vient d'où?
C'est un papier qui vient des Anglais. Comment les bébés perçoivent la douleur dans les services de réanimation? Vous savez que ça a été un sujet contesté,
terrible.
Puisqu'on a dit dans le temps, on disait que les bébés ne percevaient pas la douleur et donc n'avaient pas d'antalgique ni de protection contre la douleur. Et on s'était aperçu que quand même, c'était nécessaire. Ça a une conséquence, c'est-à-dire qu'en réanimation néonatale, vous avez des enfants qui sont dans un état métabolique très instable. Mm-hmm. Si vous naissez trop prématurément, les poumons ne sont pas encore prêts, le cœur n'est pas encore prêt. Donc c'est très difficile de régler les machines pour conserver un état homodynamique correct. Donc si on donne des antalgiques trop puissants qui vont diminuer à ce moment-là aussi les aspects de commande automatique, vous pouvez précipiter un enfant vers la catastrophe. Mmh. C'est un équilibre difficile, et quand on ne sait pas ce que l'enfant ressent, qu'on ne sait pas quelles sont ses plaintes, c'est difficile de savoir est-ce qu'il faut augmenter les doses, diminuer les doses, où on en est, etc. Donc d'avoir aussi des méthodes qui nous permettent d'apprécier ce que le bébé ne peut pas dire sont quand même très intéressantes.
Il faut lire vite ce papier.
Il faut lire vite ce papier, mais j'ai trop de choses à faire.
Et nous, en plus, on vous embête.
Voilà. Non, vous ne m'embêtez pas. Je vais peut-être aller chercher mon ordinateur pour vous montrer des images de ce qu'on a eu l'année dernière. Hop. Voilà, ça c'est des adultes qui doivent lire un mot et le prononcer. Donc on voit, donc là, le temps se déroule là, on voit que ça commence là, les régions occipitales reçoivent l'information visuelle, ça passe vers les régions linguistiques pour récupérer l'image sonore du mot, et puis après ça repasse dans les régions frontales, vous voyez à la fin, pour produire le mot, puisque les régions motrices, c'est les régions de la bouche, comment l'articulation de la bouche sont ici. Tout se passe dans l'hémisphère gauche.
Et c'est universel, ça aussi ?
Oui, enfin, c'est comme tout en biologie, ouais, 100% ouais, ça n'existe pas, ouais. Mais disons que 95% des adultes ont le langage à gauche. C'est une des choses intéressantes. Pourquoi tout d'un coup, on est devenu droitier et on a le langage qui est apparu dans l'hémisphère gauche ? On ne sait pas très bien comment ces choses-là se sont agencées. Donc ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on apprend à lire ? C'était un petit peu une présentation que j'avais faite aux instituteurs. Eh bien, il faut d'abord récupérer l'information visuelle apportée par le nerf optique, hein, les yeux. Et puis après, il faut, à partir de ces informations visuelles, reconnaître que ce sont des mots. Et ensuite, il y a deux voies. Soit on voit directement au sens, soit on a besoin de prononcer le mot. Et donc, on va aller vers les régions d'articulation. Parce qu'on doit le lire tout haut. Et savez-vous que la lecture silencieuse n'a pas été inventée tout de suite ? Les gens lisaient tout haut. Et je ne sais plus dans quel texte, il est très surpris de voir que quelqu'un lit dans sa tête. C'est-à-dire lit sans prononcer.
Et donc ça, ce serait assez récent, finalement.
Oui, donc, lire dans sa tête, ça serait assez récent. Enfin bon, là, au Moyen-Âge, il y a cette...
Elle a peut-être... fini.
Ok, comment ça va pour toi ? Bien, on arrive au dernier bloc, et puis après, je te remets le dessin animé. Donc tu vois, t'as presque fini.
Une dernière question, quand je vois ce iPod, qu'est-ce que vous écoutez comme musique ?
Un peu tout. C'est assez random.
Et vous en avez besoin ?
Oui, parfois on a du travail un peu répétitif.
Si vous le branchez, là, qu'est-ce qui sort ?
Je ne sais pas du tout. Yo-Yo Ma. Donc il interprète une suite de Bach.
Et le morceau d'après, c'est quoi ?
Ah. Paolo Conte.
Et sur le iPod de Gécène Dehaene, il y a aussi Alain Bachung. On écoute sur un trapèze.
Sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. Sur les braises, on dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. Qu'il est toujours des os et les déesses, goûter aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps. Quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or.
Quand faut-il être pour, que faut-il être encore? On dirait qu'on se lie sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. Que la nuit le monde fait la trêve. Et qu'aujourd'hui ton sourire fait grève. On dirait qu'on s'est lié sur les lèvres. Et que l'on tient tous les deux sur un trapèze.
Merci à Ghislaine Dehaene, Carla Monsaldo, Claude Fermont, Inès et sa maman. Merci à Neurospin qui nous a ouvert ses portes sur le plateau de Saclay. Vous savez que vous pouvez réécouter cette émission sur le site des Saventuriers, la podcaster et même nous laisser des messages. L'équipe des Saventuriers vous salue. Catherine Rosier, Sophie Dazard, Thierry Dupin, Christian Charles, Yves Lors et Gilles Gaillard. Et voici l'heure du zapping de France Inter. Je vous laisse entre les bras de Mathias Deguel. Il est aujourd'hui avec la chef Hélène Darroze jusqu'à 17h.